L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 2 de L'Oz Actuali. Bonjour à toute l'équipe, on se retrouve avec l'équipe type dès aujourd'hui. Bonjour, bonjour les filles, bonjour les gars.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors moi je n'entends rien dans mon casque, mais tout va bien. Alors le sommaire d'aujourd'hui, un invité, nous recevons William Fage de La Lanterne qui nous parlera de ce projet, voilà, interview qui sera piloté par notre amie Adeline. On retrouvera évidemment aussi des chroniques. Ça sera Caroline qui parlera d'abord d'un de ses petits chouchous, on le connaît.
De télé sur France 2.
Oui, en début d'après-midi, pour vous donner une idée.
On partira un peu en terre connue pour une fois.
Oui. Voilà, ensuite, nous aurons aussi une autre chronique. Alors j'ai mis tendance, je crois.
Oui, c'est une certaine tendance, oui, sur les MOOC.
Voilà, les MOOC.
Les MOOC ou les MOOC.
Ou les MOOC. Ouais.
Voilà, et donc, suite, vous pouvez suivre, puisque, voilà, avec ce mot, comme ça, on ne vous dit pas tout, hein, mais vous pourrez découvrir de quoi il s'agit un peu plus tard. Ensuite, nous aurons une revue de presse. Je commencerai à vous parler des régions qui aiment plus le sexe, hein, un article de Néo.
Ah, Guillaume, on te retrouve, oui, quel plaisir.
Quand même, ça faisait longtemps.
On va faire un petit coucou à Anne-Marie, si elle nous écoute.
Tout à fait. Et puis, ensuite, ce sera toi, Caroline. Tu nous parleras d'un mariage.
Un mariage pas forcément heureux.
Voilà. Et puis, ensuite, ce sera Eric qui nous parlera. Là aussi, ce sera un peu dans le même sujet, dans un sujet un peu environnemental.
C'est ça, d'écologie. Peu d'écologie. Et de Nicolas Gaulois, Sarkozy.
Et de Gaulois.
Oui, c'est ça. D'écologie gauloise, donc. Et on terminera avec Adeline avec un sujet numérique, évidemment.
Oui, je vous parlerai des futurs claviers qui vont peut-être remplacer nos claviers actuels d'ordinateur. Voilà.
Et puis évidemment, il y aura la chronique hashtag pour tout savoir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine.
Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez d'ores et déjà suivre l'actualité de ce magazine aujourd'hui sur le compte de 48FM ou nous taguer avec le hashtag LozActuali.
Voilà.
On vous attend
et tout de suite un jingle et après on se retrouve pour la présentation de cet invité. Adeline, c'est à toi.
Oui, bonjour William Fage.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord par une petite présentation, peut-être, de votre parcours. Vous êtes mandois, en tout cas d'origine mandoise.
Je suis mandois, ouais.
Voilà. Vous avez fait les Beaux-Arts de Toulouse.
J'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse, ouais. Donc, je suis parti de Mende. Pardon. Je suis parti du lycée Chaptal à Mende. Je suis parti à Toulouse faire les Beaux-Arts. Et voilà, donc je suis allé jusqu'en cinquième année. Une fois terminé, mon projet tout ce temps, ça a été de revenir en Lozère et de monter une sorte de lieu alternatif, donc qui travaillerait avec évidemment les arts plastiques, mais également la musique et un lieu convivial, un lieu de vie.
Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parlera donc de culture et d'art plastique, parce que du coup, voilà, c'est un peu le domaine de William. Avant de nous dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, il y a un projet, il y a quelques années, que vous aviez monté à destination des élèves, des enfants, des associations aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, du coup, quand je suis arrivé, j'ai commencé à chercher des locaux pour travailler, monter des ateliers avec les enfants, essentiellement autour des arts plastiques et de la vidéo. Et au final, bon, il y a problème de matériel, locaux, c'était très compliqué à trouver. Et donc, le projet s'est transformé en structure qui se promenait en Lozère, du coup, où j'intervenais dans les écoles, les foyers ruraux, les associations, pour monter des projets avec les enfants autour de, essentiellement, la vidéo et, quelquefois, autour des arts plastiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que je pense que la médiation, en tout cas, donner l'envie aux enfants de travailler les arts plastiques, c'est aussi une façon qu'ils arrivent à donner envie à leurs parents, après eux aussi, de s'intéresser aux arts plastiques et au milieu de l'art contemporain aussi. Finit par dériver dessus.
Et sur le projet aussi de création de livres avec les écoles, non, c'est ça ?
Oui, j'ai travaillé 3 ans. Enfin, on essaye tous les ans avec Raphaël de Winux de monter.
Alors Winux, c'est une maison d'édition
de livres jeunesse qui était basée au Blémard. Bon, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins dans le coin. Du coup, maintenant, elle est dans les Cévennes et elle s'est depuis peu délocalisée à la Maison des Paysans à Mende. Donc, elle vend ses livres sur place. Voilà, donc c'est aussi une productrice locale.
Locale, oui.
Vous connaissiez ?
Oui, complètement. Moi, j'ai vu William en intervention justement dans les écoles avec les enfants, avec Raphaël, dans une école à Mende notamment. Et, c'est des moments un peu magiques quand même, hein, quand il y a ces enfants en interaction. Moi, je trouve ça, quand on est observateur, c'est assez merveilleux, quoi.
Alors, comment ça se passe, la création d'un livre avec une classe d'enfants
La création d'un livre, y a déjà tout le travail de l'émergence de l'idée. Donc, comment on va travailler, sur quel thème et comment on va pouvoir faire développer l'imaginaire des élèves, des enfants, en partant de la littérature. Donc il y a plusieurs techniques. La première fois où on a travaillé par le cadavre exquis. Donc les élèves travaillaient, commençaient une histoire et du coup l'histoire s'est faite petit à petit, en fait, vraiment de classe en classe. Là c'était un super exercice pour nous parce que du coup les élèves créaient le début de l'histoire, on l'avait la semaine d'avant et du coup moi je montais un projet plastique avec les élèves autour de l'histoire qu'ils avaient créée, donc dans la semaine. Donc tout se faisait très rapidement, ce qui est super parce que pour la créativité c'est génial. Et voilà, donc après les élèves arrivent et on travaille autour de...
Donc avec plusieurs classes de niveau du coup, il y en a qui écrivent l'histoire, d'autres qui dessinent.
Ils écrivent l'histoire et ils dessinent.
Voilà. Donc, moi je l'ai vu sur un projet d'école et c'est vrai que de la maternelle au cycle 3, et c'est aussi ça qui est intéressant, parce que chacun a son niveau et de lecture et de compréhension, d'arriver à fédérer tout ça, j'avais trouvé ce projet assez fabuleux, quoi.
Ah oui, c'était très intéressant. C'est très intéressant.
Si on mêle la vidéo, on peut bientôt après créer des jeux vidéo, peut-être avec les enfants.
Et ouais, moi je sais pas trop quel là-dedans, mais oui, on peut aller plus loin, ouais.
Bon, la vidéo, c'est le côté numérique d'Adeline,
tout de suite, là.
Ok, et donc du coup, est-ce que, pour faire un petit teasing, parce qu'on en reparlera après sur l'actualité, du coup sur votre actualité, sur le collectif Arte Lozera aussi, peut-être un petit mot, mais la lanterne, c'est quoi et d'où c'est né voilà.
Alors c'est finalement ce lieu alternatif rêvé ?
Voilà, ouais, c'est en train de le devenir, donc c'est un lieu qui est en mouvance perpétuelle, quoi. Donc on a ouvert en octobre dernier, donc ça fait un an, l'association, elle, a été créée il y a 2 ans. Donc on a commencé par monter l'association, proposer une première exposition sur les maisons consulaires avec des artistes. Donc il y en a certains qui sont partis, d'autres qui sont restés. Voilà, donc autour du terme contact. Donc c'était le contact avec la population, un premier contact. Voilà, donc on a exposé plusieurs œuvres. Et petit à petit, on a réussi à avoir ce local qui était... Bon, là, on a un local en centre-ville, c'est aux 3 rues Basses. Je ne sais pas si tout le monde voit, vers la poissonnerie de base, voilà, c'est pas loin. Et du coup...
Tu entends plus que tu vois, Guillaume, non. Tu voudrais nous dire.
Du coup, il y a eu des gros travaux, quoi. On a bossé énormément sur le lieu pendant 5-6 mois pour tout rénover et pouvoir le transformer en salle d'exposition, en bar associatif et atelier pour nous-mêmes, pour qu'on puisse travailler dedans. Donc sur la première année, on est parti sur des expositions essentiellement sur la lanterne, avec comme projet, c'est que les artistes viennent en résidence une semaine ou deux. Alors soit ils exposent des travaux qu'ils avaient déjà, soit ils en produisent sur place, ça dépend des pratiques des artistes. Et l'idée, c'est qu'ils ils produisent aussi quelque chose qu'ils vont exposer sur le territoire en dehors de Mende. En dehors des murs de la lanterne. Donc, il y a eu des choses sur les bondons, sur la grotte de Nabrigas. Et là, il y a...
Sur le Causse de Mende cet été.
Sur le Causse de Mende aussi cet été, avec les caméras obscuras dans les villages morts. Voilà, donc l'idée, c'est un peu ça. Donc, le lieu est là pour accueillir les gens, accueillir les artistes, les aider à travailler. Et voilà. Donc, pour le moment, c'était ça. C'était vraiment des expositions dans les lanternes, dans la lanterne et sur le territoire. Là, le lieu est en train de changer. On le transforme plus en atelier. ateliers d'artistes. Donc les gens peuvent venir au bar, visiter les ateliers d'artistes, parler avec les artistes et essayer d'avoir une production sur les artistes du cours résident qui font partie du collectif. Voilà, la lanterne sert à ça, à expérimenter et à proposer des choses au fur et à mesure qu'elles se font. Voilà.
Et est-ce que du coup il y a eu des liens entre les différents projets que vous portez, entre la lanterne et aussi des travaux avec les écoles, ou pour l'instant c'est pas encore un lieu qui reçoit des scolaires par exemple?
Pour l'instant, pas trop. On a un peu de mal, le lieu, vu qu'il a plusieurs fonctions, qu'il y a... Voilà, on ne sait pas trop comment gérer, puis c'est un petit lieu, donc faire venir beaucoup d'enfants pour travailler dessus, c'est un peu compliqué. Mais bon, les projets se montent aussi. Voilà, David, qui bosse avec moi, intervient beaucoup sur l'étape en périscolaire.
David Sué de Arthélozère.
Intervient pas mal sur l'étape et ce genre de choses.
Donc, il y a une vraie vie de création dans le lieu. Et donc, combien d'artistes, finalement
Du coup, là, on est quatre. Donc, il y a moi-même, David Sué, Julie Salburgo et Axel... J'avais son prénom, ça y est, son nom de famille. Axel Garrigue, qui est peintre. Donc voilà, on évolue là-dedans, on travaille sur le lieu et on essaye de monter des expositions sur un étage, voilà, que ça tourne tout le temps, que ce soit un lieu de mouvance.
Et sur une logique autour de l'art plastique prioritairement ou pas que?
Autour de l'art plastique prioritairement et de la vidéo aussi, de l'art visuel, du son. C'est assez modelable, on aimerait bien réussir à travailler aussi avec des artisans. Donc essayer d'intégrer les artisans locaux pour produire des pièces ou les amener à sortir un petit peu de leur pratique, en fait, déjà. Et essayer de les tourner aussi, toucher ce public et les amener à comprendre la création artistique et qu'ils ont une part importante dans la création artistique. C'est une deuxième étape, l'artisanat. Voilà.
Merci. On parlera de l'actualité du lieu tout à l'heure.
Voilà, tout à fait.
Et... On va peut-être d'abord écouter le son de William, c'est ça?
Non, ça sera non, tout de suite après la chronique.
D'accord.
De...
Comment on a modifié l'ordre?
On est perdu. Voilà. Oui, on commence dès la deuxième, voilà. On est paumé.
On a déjà tout changé.
Pour la deuxième, on essaye de changer des petites choses, vous nous direz si ça vous plaît ou pas.
D'améliorer le rythme, voilà. On va dire. Hein.
Et donc tout de suite, juste après le jingle, une petite chronique. Alors, Caroline.
Alors, puisque tu avais décidé de ne pas en parler, je me suis glissée dans ton créneau de télé, Guillaume.
Ce n'est pas une propriété privée.
Non, justement, voilà, j'en profite. Et puis, je vais vous parler d'un de mes chouchous, vous le connaissez. Donc, l'arrivée de Frédéric Lopez l'après-midi sur France 2, en lieu et place de Sophie Davant. Alors, j'aimais bien Sophie Davant, mais franchement, je préfère largement Frédéric Lopez.
En tant que présentateur ou
Ouais,
d'accord.
Bah, même son côté accoucheur de, témoignages.
De témoignages, voilà. Donc, un concept finalement pas nouveau pour Frédéric Lopez. Hein, et presque un cadre pas très nouveau, parce qu'on a presque l'impression de se retrouver dans cette maison de la parenthèse inattendue. Alors, c'est pas la même, hein, le décor a un peu changé, mais il y a quand même cet aspect un peu, on est chez soi, on est cocoon, on se parle au coin du feu. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien ce concept-là. J'aime beaucoup la façon qu'a Frédéric Lopez, comme tu disais, d'accoucher la parole des autres. Et finalement, en tant qu'animateur, de savoir se mettre en retrait pour laisser les autres parler. Et finalement, quand on voit un peu la starisation de tous les animateurs télé, c'est pas si fréquent que ça. Moi, je le dis tout net, hein, je suis prête à m'inventer un passé torturé pour aller une heure parler les yeux dans les yeux à Frédéric Lopez, il n'y a pas de souci, je peux trouver l'histoire.
Ok, tu vas guetter les prochains castings.
Voilà, ce n'est pas des histoires lisses, hein, ce sont des histoires un peu tourmentées. Alors, il y a un mélange d'invités, hein, ça peut être un invité connu ou un invité anonyme qui vient se livrer à Frédéric Lopez. Alors j'avoue que je ne l'ai vu qu'une fois, hein, je travaille, donc l'après-midi c'est un peu compliqué,
un peu le problème,
voilà, hein, mais je voulais quand même voir, donc voilà, je l'ai vu avec une ancienne Miss France, et c'était franchement sympa, quoi. Je me suis laissé prendre à l'histoire, je pense que ça tient beaucoup à l'invité, effectivement, en fonction de ce que l'invité a à dire. J'imagine que c'est certainement plus... Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse plus de voir une personnalité un peu connue qu'un anonyme qui vient... Moi, j'ai un peu du mal à comprendre cette propension qu'ont les gens à aller se livrer comme ça devant le petit écran.
Mais ils ont tous la même passion que toi.
Pour oui, voilà.
Avance des bons.
Définitivement que je me fasse connaître.
Avance des pour Sophie d'avant, mais maintenant.
Donc, enfin voilà. Donc, ce concept en première partie d'émission, hein, puisqu'en fait, il y a deux émissions qui se suivent. Donc, la première, c'est Mille et une vies. Donc, c'est les Mille et une vies de l'invité. Alors, avec toujours chez Frédéric Lopez cette envie d'aller chercher le positif dans les choses quand même. Je pense que c'est aussi dans peut-être dans le contexte actuel quelque chose de plutôt sympa quand même, de pas. Enfin, voilà, de creuser, de voir ce qui a permis aux invités de rebondir sur des choses pas toujours faciles. Et la deuxième partie d'émission, c'est « Mille et une vies rêvées », cette fois. L'invité fait... Il y a le choix de gens qui ont lancé des choses, alors là, pour le coup, très positives. Donc ce sont des témoignages, l'invité est encore là, les amis de l'invité ou les proches de l'invité sont là, parce que la première partie finit avec les proches de l'invité, et voilà, les gens témoignent de leurs expériences, et donc l'émission que j'ai vue, il y avait un jeune entrepreneur handicapé qui avait fait le constat que tous les fauteuils roulants remboursés par la Sécu n'étaient pas fabriqués en France, donc c'était un peu de l'argent... qui servait pas, en tout cas, à enrichir l'entreprise française, et qui a monté sa boîte de fabrication de fauteuils. Un témoignage super sympa, en plein jeu paralympique en plus, enfin voilà. Donc voilà, un côté positif, une positive attitude qui j'avoue, ne me déplaît pas avec Frédéric Lopez, qui est là pour faire parler les gens. Bon, j'avoue que j'y suis très sensible. Il a proposé dans cette émission, puisqu'on était sur les Jeux paralympiques et qu'il est parrain de l'équipe de France paralympique, un voyage en terre inconnue avec notre porte-drapeau, Michael, le tennisman. Donc j'avoue que si celui-ci voulait se laisser prendre au jeu, ça, je pense que ça pourrait donner...
Il a déjà été un des témoins.
Voilà, ça pourrait être une émission assez fabuleuse, j'avoue.
Je crois que c'est parti, hein, c'est signé.
Ouais, je pense que on va la voir.
Bien, c'est une émission en public ou non,
il y a pas de public. Non, il n'y a pas de public. C'est vraiment dans cette intimité du coin du feu, quoi. Alors la première se fait vraiment autour d'un thé, d'un café qu'il propose au début, et la deuxième se fait dans le salon avec quasiment le feu de cheminée, quoi. Enfin, c'est vraiment.
Oui, c'est finalement la grosse différence avec Sophie d'avant, qui était sur un grand plateau, voilà. Un peu à l'époque de la rue.
Oui, et puis avec un aspect un peu... Il y avait le psy qui était là. Qui... Bon, là, c'est vraiment plus du témoignage de vie, quoi.
Bien, ben voilà. Donc, si vous vous ennuyez après avoir écouté Los Actuali, vous restez chez vous et vous allumez le petit écran et vous découvrirez... le début d'après-midi de France 2. Alors, ça marche pas bien, côté audience. Hein.
Alors, ce pauvre Frédéric Lopez, côté audience, c'est pas... Ça fait quelques... Bon. Mais ça va peut-être venir aussi. Hein. C'est dur de remplacer quelque chose qui était là depuis très longtemps. Et...
Tout à fait.
En tout cas, précipitez-vous si ça ne devait pas durer. Ne le loupez pas.
Bon, ils ont quand même du temps. Hein, le directeur général de France 2.
Oui. C'était une vraie volonté de la chaîne, oui. Donc, oui. Je pense que voilà.
Je pense que l'audience explosera quand Caroline, tu seras invitée. Frédéric Lopez.
Frédéric, j'arrive.
Bien, ben voilà, l'appel est lancé. Bien, les premières coupures musicales de cette émission. Alors, c'est le choix de notre invité. Alors, pourquoi ce choix?
Bah parce que déjà, c'est un morceau que j'aime énormément. Les Berruyers Noirs, c'est un groupe des années 80 et qui ont créé.
Un groupe toulousain, c'est ça?
Non, c'est des Parisiens. Non, les Berruyers Noirs, c'est des Parisiens. Ils sont arrivés, c'est la nouvelle scène punk des années 80. Voilà, ils sont arrivés avec un son très brut et très primaire, des paroles qui viennent comme des slogans politiques, en fait, qui sont jetés avec un son sec. Et voilà, c'est un côté brut que j'aime énormément. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'on les entend pas.
Et ben c'est parti. Et alors c'est un enregistrement live, donc voilà. C'est parti.
C'est sale.
De toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National.
Yeah. j'aimerais voir jouer les hommes se convoient quand les morts et le match en favori avec milliers de temps de main. Nous sommes à l'heure des paradis, on est aux prisons sur des vies. Nous sommes dans un lit d'Arrejane et partout c'est le roi du vin. Constitution organisée, plus des passions j'ai pélosé. Le tir montrait les pandémies, la tension montée t'y agrée. Massacrer dans les abattoirs, ou les dans les laboratoires. Marcher dans les cités-toirs, prisonnier derrière ton pas droit. Les suivis, en les fous du gouvernement, en Europe les robes trop vite, en les bouchons des Allemands. Marcher, marcher, un antique d'un temps morceau, dynamique et parti pour haut, les sages qu'on tue à la violence, le temps devient le très lent. Marcher, marcher, la cause des systèmes monétaires, de l'autre le droit militaire, pour finir en règle en bombe, à vous le chat de son rayon. Marcher.
Alors déjà un premier message hein, de réaction sur les réseaux sociaux. D'accord. Suite à cette programmation musicale. Chouette, hein. On passe du Mireille Mathieu à du punk, bravo.
Oh, je sais qui c'est, je crois que je sais qui c'est.
Je crois que je sais pour qui c'est.
Adeline, on poursuit.
Mais Mireille avec... Mathieu reviendra.
Oui, ça...
Deuxième choix musical
oui,
dans l'émission.
Il y a un deuxième choix, je rappelle, dans l'émission.
Ah. Et non, ça ne sera pas Mireille Mathieu.
Ouais, mais... zut.
Bien, oui. Adeline.
On poursuit avec William Fage. Du coup, aujourd'hui, notre invité, pour parler maintenant donc, de la Lanterne, donc le lieu dont on parlait tout à l'heure, à la fois café associatif, lieu de résidence d'artistes, lieu d'exposition, enfin lieu... très éclectique.
De concerts aussi, hein, parce qu'il y a
concerts,
eu quelques concerts
de
cet
temps
été.
En temps.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Oui, pendant 48 heures.
Alors, justement, une petite question, là aussi d'un tweetos.
C'est toi qui fais le live tweet aujourd'hui.
Bah oui, tu fais l'interview. on peut entendre les Berruriers Noirs à la Lanterne, pour l'interrogation ?
De temps en temps, oui.
Bah, voilà.
Donc, quand William est en création.
Voilà, donc voilà, Alban a la réponse.
D'accord.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu ? Bah, je sais pas, moi je connais pas bien la définition des tiers-lieux. Je pense que tu peux nous aider.
Je connais un petit peu, en effet, la définition des tiers-lieux. C'est, ça peut être un tiers-lieu, sauf que par essence, un tiers-lieu est un tiers-lieu quand il fait se croiser plusieurs publics. Donc là, en l'occurrence, on pourra être sur un tiers-lieu culturel quand on y amènera un peu justement de croisement de public avec des scolaires, avec d'autres types d'acteurs aussi qui pourraient potentiellement fréquenter ce lieu-là. Mais d'accord. C'est en bonne voie pour être un des tiers-lieux mandois. Ouais. Donc, du coup, la lanterne, Rubas, voisine de Guillaume, est-ce que j'ai compris.
Vous êtes pas obligé de dire à tout le monde mon adresse non plus.
Alors, actuellement, il y a une expo en cours, je crois, que vous avez vernie, du coup, la semaine dernière.
Jeudi dernier, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire
un
petit peu?
Oui, il y a une exposition, on a accueilli là pendant 2 semaines Gaël Bonnefond, qui est un artiste toulousain, qui est photographe et vidéaste. Voilà, donc là, l'exposition se déroule sur la maison consulaire. Donc, à la maison consulaire, elle est ouverte le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Donc, les créneaux sont assez courts. Normalement, les gens peuvent se déplacer le mercredi et le samedi. C'est pour ça que ça se goupille comme ça. Après, on fait des interventions avec les scolaires, justement, sur rendez-vous. Donc, voilà, ça peut se disperser n'importe quel moment dans la semaine. Voilà, il suffit d'appeler à la lanterne.
Une excellente interview de l'artiste dans le quotidien du jour.
Ouais.
J'allais le dire. Un deuxième salut à notre ami Anne-Marie.
Donc une expo qui dure jusqu'à...
Et jusqu'au 10 octobre.
Et donc il travaille sur quelle
Alors Gaël, il travaille... la thématique. Photographie, ouais. Vidéo. Alors il y a une partie de l'expo qui est à la maison consulaire. Il y a une deuxième partie qui est sur la lanterne. Où c'est plus des projections vidéo du travail de Gaël et d'autres artistes avec qui il travaille en vidéo. Voilà. Gaël, là, l'exposition qu'il a sur la maison consulaire, c'est une exposition qui s'appelle « Ne les réveillez pas », qui est le résultat d'une résidence à Affiac, dans le Lot, si je ne me trompe pas.
Dans
une école primaire. Où il a voulu travailler sur la vision de l'enfance par le prisme... des problématiques de l'adulte. Donc on va trouver le thème de la mort, le thème de l'âge, du sexe, de la vieillesse, voilà, tout ça, quoi, qui est mélangé par le prisme du regard de l'enfant, de la photographie à travers l'enfant. Voilà.
Ok, très bien. D'autres projets aussi à venir.
Plusieurs projets, ouais.
Notamment avec Nicolas Reeves, qu'on a déjà vu il y a quelques mois en Lozère, donc un Québécois.
Alors Nicolas Reeves, si on l'a accueilli, je crois que c'était en juillet, cet été, du coup, ou fin juin, début juillet, à la sortie d'un travail qu'il a fait avec... Flora, quel cinéma ?
La quatrième dimension.
La quatrième dimension, voilà.
La nouvelle dimension.
Ça a changé.
Ouais, ça a changé. Il est intervenu durant le festival et il a monté un four solaire sur place là-bas. Voilà, travaillé sur la fonte de pierres, les différentes pierres qu'il y a sur le département. Et du coup, il est venu après en résidence ici travailler d'autres problématiques sur les lichens, sur les pierres. Enfin, voilà. Bon, Nicolas. Nicolas Ribes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste du coup qui est un artiste canadien. Québécois, pardon. Il est à la base architecte et physicien et il mélange la science et l'art. Donc voilà, il se sert de la science et de la technique pour créer de la poésie et la poésie intervient ensuite dans la technique, dans les recherches qu'il fait au Québec. Du coup, là, il a envie de revenir, il a beaucoup aimé la cathédrale. Donc on est en train de monter un projet avec lui et la mairie autour de la cathédrale. Un projet autour de l'imagerie 3D et de la musique. Voilà. Donc c'est en construction. Donc s'il vient, si on arrive à le faire venir, il sera là en juin. Voilà.
Eh bien, plein de choses à venir. Je crois que d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'actualité des expositions de la lanterne sur le site internet.
Sur le site internet, oui. Et sur la page Facebook de la lanterne.
Le site, c'est...
lalanterne48.
Voilà, .com.
Et alors, pourquoi la lanterne ?
Pourquoi la lanterne ? La lanterne, ça vient des lanternes magiques, donc les premiers systèmes de diffusion d'images. Voilà, donc on se dit qu'on pourrait rester sur ce principe de la lanterne. Et en face de la lanterne, il y a des lanternes.
Et une actu de William Fage, une expo prochaine, un livre ?
Pour l'instant, Pas trop. On est en train de développer, monter une exposition collective, comme exposition Contact avec les artistes de la Lanterne, qui sera en avril. Voilà, donc c'est en recherche. On est peut-être sur le thème du corps. La prochaine actu sera en avril.
On n'a pas dit, mais vous êtes enseignant au lycée Notre-Dame.
Je suis enseignant au lycée Notre-Dame, ouais. J'enseigne les arts plastiques et je m'occupe de l'option cinéma. Voilà. Ok.
Ah si, bah du coup, pardon Guillaume, excuse-moi. Une actualité à venir bientôt avec le festival Emlire.
Avec Emlire, alors c'est en construction mais bon, il y aura peut-être un travail avec les...
Donc Emlire, hein, le festival de la bibliothèque et des amis de la bibliothèque au mois de novembre, décembre cette année.
Fin novembre. Ouais. 23, 24, 25. Voilà, on est en train de monter le projet. Du coup, peut-être que j'interviendrai avec les élèves de l'option cinéma, du coup, du lycée, et pour créer des mini-studios de tournage. Donc les écoles viendraient sur place et on va monter un projet avec autour de la vidéo là-dessus. Moi, j'aimerais bien que ce soit quelque chose sur l'imaginaire, donc de la mise en scène de lieux sur Mende. C'est encore en projet, donc on ne sait pas si ça va se faire comme ça. Mais de lieux de monde, mise en scène, éclairé par les élèves, et un travail en amont des instits sur, l'émergence de l'imaginaire dans la parole, par rapport à des objets. Tout ça est encore en projet.
Très bien, on suivra toute cette actualité. Et puis ça se retrouvera aussi dans l'agenda culturel qu'on retrouvera pour... C'est la reprise aujourd'hui de l'agenda culturel et on le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à la fin de notre mag. Et puis bien sûr dans les actus aussi de 48 FM.
Et je ne me souviens pas, on peut peut-être les redonner, les horaires d'ouverture de la Lanterne.
La Lanterne, alors là on est en train de rechanger tout ça. Du coup cette année on a créé un emploi. Donc David Suet est sur la Lanterne. À temps complet, du coup, on va essayer d'ouvrir vraiment la Lanterne du mercredi au samedi. Donc, journée et soirée incluse.
D'ailleurs, justement, c'est parfois un gros mot de parler de ça quand on parle culture, mais comment un lieu comme celui-là arrive à vivre ? Créer un emploi, c'est bien ?
Ouais,
au bout d'un an.
Du coup, c'est parce qu'on on arrive à faire ça par rapport à la qualité des expositions, je pense, qu'on propose, le travail de médiation qu'on fait autour des expositions. Donc il y a une partie qui... la première année, on s'est financé avec le bar associatif.
Ah, vous avez beaucoup bu quand même, alors.
On a beaucoup bu. Non, ça a été très compliqué parce que une exposition, ça demande beaucoup de temps pour la monter et de l'argent. Et il faut accueillir les artistes dans de bonnes conditions. On les a accueillis en bonnes conditions, mais les artistes, ça a besoin de vivre, donc il faut les payer. Voilà, donc là, on commence à travailler un peu plus avec la DRAC. Voilà, et la région, on essaye d'avancer comme ça. Voilà.
Oui, ça s'installe et ça se développe. Mmh. Voilà, on suivra tout ça avec grand plaisir. Un jingle et puis une deuxième chronique. Évidemment, vous restez avec nous et vous pouvez réagir à tout ce qui va se passer après. Il va y avoir plein de choses à découvrir. Alors, on poursuit et on va parler de MOOC. Mais de quoi s'agit-il ?
C'est ça, le phénomène des MOOC. Alors, c'est un nouveau terme qui est de plus en plus utilisé. Déjà, autour de la table, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un MOOC ?
Alors, moi, j'avais l'idée d'un certain MOOC.
Moi aussi. L'idée d'un MOOC...
Un cours en ligne.
Un cours en ligne, voilà, tout à fait.
Une revue presse.
C'est ça. Il y a les deux sortes. Ouais. Les MOOC, il y a les cours en ligne, alors sur des thèmes très, très variés. On peut avoir des MOOC vraiment sur tout. Donc je pense qu'on fera une autre...
On en parlera ensemble, on fera une chronique croisée sur les...
Alors pour certains, dont je tairai le nom, MOOC, c'est un personnage de dessin animé. Hein.
Ah bon ?
Oui. MOOC.
Moi je connaissais pas.
Non, c'est récent peut-être.
C'est assez récent.
C'est ça.
Ouais.
Vous manquez d'enfants jeunes, je pense.
Oui, c'est ça.
Ça doit être ça.
Et donc et après il y a le terme hybride, donc c'est entre le magazine et le livre. C'est ça, le MOOC, c'est entre magazine et book.
D'accord.
Et le book, le livre, donc c'est pour ça.
Donc ça s'écrit M2O K.
Alors que le cours en ligne est un C à la fin.
C à la fin, c'est ça. Ouais.
Donc c'est un format de presse un peu particulier. Donc déjà, c'est vrai que ça fait quelque temps que la presse écrite vit une petite révolution. Donc c'est entre, il y a plusieurs choses qui sont remises en cause déjà. Donc c'est, on voit souvent la liberté journalistique qui est remise en cause. Ce sont souvent des grands groupes industriels qui sont propriétaires de groupes de presse. Il y a des difficultés au niveau de la rentabilité, donc aussi avec de plus en plus de journaux qui disparaissent, faute de trouver des lecteurs, et puis, ou qui réduisent leurs effectifs. Donc maintenant, on peut aussi trouver donc, de l'information gratuite sur les sites internet, des journaux, justement, traditionnels. On peut trouver de la presse gratuite dans la rue, des journaux gratuits, dans sa boîte aux lettres, à la radio, à la télé. Donc les magazines, maintenant, il faut qu'ils trouvent de nouvelles méthodes pour pouvoir continuer à exister. Et donc, en plus, dans une époque où tout va toujours plus vite, le paradoxe, c'est qu'ils doivent prendre du temps pour pouvoir apporter leur expertise journalistique à tout ça, le temps de l'enquête, le temps de la réflexion, le temps de la rédaction, le temps de la mise en page. Et donc, justement, les MOOC se veulent une alternative. Généralement, donc, ce sont des reportages ou des enquêtes approfondies. Donc, il peut y avoir des textes, des photos, de la bande dessinée. Et l'une des particularités aussi des MOOC, c'est qu'il n'y a plus de page de publicité dedans. On ne voit plus une page de publicité sur une page de revue. Tout est financé par la vente. Donc c'est ça qui est aussi un peu qui est différent de la revue, des revues traditionnelles. Donc c'est apparu en 2008, le phénomène des MOOC, avec la revue 21. Et les fondateurs ont déclaré, donc, je cite, « vouloir rassembler le meilleur du journalisme avec le meilleur de l'édition et donner du temps à l'enquête et à l'écriture ». Donc le succès et la rentabilité dès la première année du magazine 21 ont inspiré d'autres éditions. Et donc on a vu apparaître d'autres magazines dans le style. Donc il y a 6 mois, c'est la même maison d'édition, mais là ce sont que des reportages photos. Il y a Feuilleton, L'Éléphant. Après, il y a des thématiques, il y a des futuristes comme Uzbek Erika, Oui Demain, Les Décalés comme Tigre, Schnock. Alors Schnock, c'est très kitsch. Alors c'est pour les jeunes de 27 à 87 ans.
C'est bon.
Donc ça va, c'est une palette assez large.
On va publier une photo de ce magazine.
Il y a des thématiques comme Ruk, je ne sais pas si je prononce bien, sur le monde arabe, Alibi, sur les polars en général. Après, maintenant, il y a Mediapart qui a créé le sien, la revue du Crieur. Il y a aussi, j'ai vu France Culture qui avait sorti le sien, c'est sur les émissions qui sont diffusées.
Et tu achètes ça en librairie ou en maison de la presse ?
Moi, je l'achète en librairie parce que je veux faire travailler ma petite libraire. Et après, on peut aussi trouver ça en maison de presse. Ouais.
Et c'est des publications régulières ou c'est plutôt des one-shots un peu sur un thème sur...
Là, par exemple, pour revenir sur 21, c'est trimestriel. Donc c'est vraiment trimestriel. Après, je vais revenir un peu sur le dernier tout à l'heure. Je terminais juste...
On te laisse parler.
Merci.
non, on ne peut pas s'empêcher d'être interactif.
Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup des noms, comme on dit, des noms à coucher dehors. Mais voilà, c'est pour essayer de sortir un peu de la masse et essayer de se faire connaître tout de suite, puisque comme je le disais, ils n'ont pas de financement extérieur. Il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver leur public très vite pour pouvoir continuer à exister. Il y en a beaucoup qui ont fait que 2-3 parutions, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur public tout de suite. Hein. Donc voilà, après, il faut le savoir que 21, par exemple, ça coûte 15,50 €. Donc par rapport à un autre mensuel ou hebdomadaire, c'est plus cher. Après, 15,50 €, c'est pour un trimestriel. Donc ça revient à 5,15 €, 5,20 €, pour un mois. Ouais.
Ce qui n'est pas beaucoup, beaucoup plus cher que le prix d'un magazine mensuel.
Voilà. Parce que voilà, c'est que ça les fait sortir d'un coup, les 15,50 €. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut réussir à trouver son public. C'est que mettre 15,50 € dans un... Bon, après, voilà, c'est un format...
Quand on les regarde, c'est des beaux objets, quoi. Ouais. C'est vraiment des livres. C'est des livres, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que...
Très bien édité, très bien mis en page... Donc on n'est plus vraiment dans le magazine, on est aussi dans le, livre.
Voilà. C'est ça, dans c'est presque un objet culturel. Ouais.
Oui, ouais, sûr, ouais. C'est ça, ouais, vraiment.
Ils font c'est très soigné. Ils prennent autant ils prennent le temps de la rédaction pour les reportages qu'ils font à l'intérieur, autant qu'ils prennent du temps pour la mise en page, pour tout ça. C'est très stylisé, c'est vraiment, ça donne envie de le, enfin moi en tous les cas, ça me donne envie de le lire. Ouais. Là par exemple après, un des défauts qui leur est reproché, c'est qu'ils ont eu un petit côté donneur de leçons derrière ça. C'est-à-dire de dire, voilà, nous, on fait du vrai journalisme non partisan, on n'est pas tenu par des grands groupes. Donc c'est vrai, ils ont eu ce côté qu'à Mediapart aussi, de son côté, de dire, nous, on sait, voilà, il faut nous laisser parler. Donc c'est laisser la porte ouverte un peu pour tout le monde. Après, pour revenir à 21, donc j'ai pris le dernier. C'est les nouveaux aventuriers. Donc le thème des nouveaux aventuriers. Après, à l'intérieur, on part. Il y a trois reportages justement sur ces nouveaux aventuriers. Alors il y a Coco, le faiseur d'avenir. Lui, il vit sur un bateau d'expérimentation. Donc tout le monde peut le rejoindre. Il y a toutes sortes de populations. Ils essayent de trouver des idées pour pouvoir vivre en permanence, pour s'autosuffire justement, comme il dit. Alors là, un des points, par exemple, c'était sur la nourriture, sur la protéine, sur les protéines. Au début, ils ont essayé de faire de créer un élevage de poules, mais ils se sont rendus compte que sur un bateau, un élevage de poules, c'était compliqué. Donc ils ont fait un élevage de vers. Et ils ont mis un peu de temps pour pouvoir assaisonner les vers, mais a priori, maintenant, c'est bon, ça vient.
Il va falloir tous qu'on s'y habitue, ça va devenir à la mode, je crois.
Après, il y avait un autre reportage sur le mercato à Katmandou. Alors là, en fait, c'est des Africains qui se retrouvent à jouer au Népal... à Népal, au football, pour essayer de s'en sortir, justement, qui arrivent là-bas un peu... on ne sait pas trop comment ils y sont arrivés. Ils découvrent la neige en même temps que les coutumes locales et la nourriture locale. Donc voilà, c'est un peu particulier. Et Hong Kong, l'auberge asiatique, qui nous montre qu'il y a de plus en plus de Français oui, qui partent vivre dans la New York de l'Asie pour essayer de gravir les échelons professionnels le plus vite possible. Ils brûlent la vie à Hong Kong. Donc voilà, après il y a une autre histoire, par exemple, après il y a d'autres histoires qui sortent du thème, comme là on a une histoire d'un tableau de représentant Bonaparte qui est sorti de nulle part, et donc les gens vont mener l'enquête pour essayer de connaître l'histoire de ce tableau, qui vient donc, c'était un des geôliers anglais de Bonaparte sur Sainte-Hélène. Voilà, après tous ces reportages, il y a des entretiens aussi avec des personnes civiles, là c'est avec un anthropologue très réputé. Donc après, à la fin des reportages, il y a toujours une bibliographie pour pouvoir aller plus loin, justement, dans le thème. Donc ça propose vraiment plusieurs choses. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pas comparable avec un quotidien qui nous parle de notre vie de tous les jours. Mais par contre, si on le compare avec des mensuels ou des hebdomadaires, il tente moins de faire le buzz. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... On part sur des sujets avec... ils nous racontent vraiment l'histoire de personnes qui sont en plein dans les sujets de société. Donc c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, je pense qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qu'on a. Il y a des thèmes, enfin, il y a des thématiques. Il y en a qui sont... Là, celui-là, il est généraliste. Donc il y a des thèmes qui m'ont plus ou moins intéressé que d'autres. Mais j'ai trouvé ça, ouais, non, en général, intéressant. Après, est-ce que c'est l'avenir du journalisme de demain? Je ne sais pas. Il faut que je pose la question à certains.
T'as envie d'écrire pour un MOOC, Caroline ?
Bah pourquoi pas, ouais. Bah c'est sûrement très très différent d'une presse quotidienne de proximité.
Oui, finalement, la parution plus longue permet peut-être de creuser un peu plus les reportages de fond, des enquêtes, des
après,
sujets.
Après, je pense qu'à part la zone de rédaction, d'édition, et ils font appel à beaucoup de journalistes extérieurs, même à des écrivains par moment.
Ouais.
Et la dernière fois, j'avais vu qu'il y avait Eric Carrière qui avait fait tout un reportage, donc ils font appel à plusieurs personnes. Et c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a un reportage photo, mais sinon, c'est illustré que par des dessins. Mm-hmm. Donc voilà, ça apporte aussi, comme on disait tout à l'heure.
Oui, c'est des vrais partis pris.
J'ai l'impression que ça vient un petit peu du... il y a quelques années, on a vu la montée des reportages BD, qui s'est vraiment développé. J'ai l'impression que c'est un petit peu le... Ça vient un peu de là, quoi. Cette envie de regarder les choses, d'avoir, je sais pas, une opinion, qu'elle soit graphique et aussi d'engagement et politique vis-à-vis d'un sujet, quoi.
C'est ça.
Voilà, peut-être des créations pour un futur MOOC.
Ça peut s'imaginer.
Bien sûr.
Bien, on poursuit et maintenant c'est le rendez-vous que tout le monde attend, le rendez-vous régulier de cette émission avec Hashtag, c'est parti. Alors Adeline, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette quinzaine ?
Plein de choses depuis notre dernière émission. Déjà, j'espère que vous avez tous commencé à faire vos premiers tweets, parce que le petit cours qu'on a eu il y a 15 jours, j'espère que vous avez essayé de tweeter un petit peu, je ne sais pas. Il faudrait demander à Jean-Marc Chevalier, oui, notre invité du premier magazine, savoir s'il s'y est mis. On parlait des possibilités vraiment infinies de Twitter la dernière fois.
Qui s'est assoupli, j'ai appris hier soir.
Qui s'est assoupli, absolument. Nous ne sommes plus obligés d'écrire des tweets de 140 caractères, ce qui faisait quand même une des spécificités de Twitter, qui faisait court, en effet.
Mais charme aussi.
C'est ça. Oui. C'était le principe fondateur quand même de Twitter. C'était vraiment du microblogging, donc on était sur des petits messages très très courts. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, à voir comment le réseau va évoluer. Je pense que du coup, ça va aussi impacter la nature de l'information qui sera transmise et sa viralité. Donc, on regardera ça de près dans les prochains magazines. Du coup, juste pour continuer un petit peu sur la découverte de Twitter, je voulais vous parler de la possibilité de créer des listes et des sous-communautés thématiques. En l'occurrence, par exemple, pour des thématiques aussi spécifiques que celle des MOOC, par exemple, ou des rubriques télé, ou enfin en tout cas plein d'actualités, il est possible de s'abonner à des listes spécifiques, d'inviter des membres et du coup de trier notre information aussi comme ça. Je vous le disais la dernière fois, c'est un puissant outil aussi de veille et de recherche d'informations.
Et comment on les trouve, ces listes ?
Alors c'est une fois, par contre, il faut avoir un compte Twitter et vous pouvez du coup créer vos propres listes, inviter vos propres membres ou sinon par recherche thématique dans le moteur de recherche avec un hashtag et un sujet. Vous pourrez vous abonner à d'autres, à plein de thématiques et à plein de listes spécifiques. Ça, c'était donc du coup une petite parenthèse sur une des nouvelles options de Twitter. Sinon, sur les tendances de cette semaine, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux cette semaine ? Alors, je vous aide. Il y a une actu qui relève surtout du début de semaine, quelque chose qu'on a entendu parler un petit peu en boucle lundi, donc hier. Pour ceux qui étaient devant la télé, d'ailleurs, je pense que vous avez peut-être
le matin, la cérémonie d'hommage pour les attentats, enfin pour les victimes d'attentats.
Tout à fait. Donc, un des deux hashtags les plus tendances cette semaine, c'était le hashtag invalide. Donc, du coup, pour faire référence à la cérémonie organisée ce lundi pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Donc, on avait évidemment beaucoup de politiques, des familles de victimes également. Et puis, un hashtag beaucoup plus drôle, un hashtag même un peu anecdotique, un hashtag « si j'étais pirate ». Alors, c'est la grande mode aussi sur les réseaux sociaux de lancer ce genre de petits tweets, et les tweetos adorent ça. L'idée, c'est un petit peu sur le modèle de « ah, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto », ce genre de choses. Donc là, il y a un hashtag qui a beaucoup tourné ce début de semaine, c'est le hashtag « si j'étais pirate ». Avec des petites perles. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous en ai sélectionné une que j'ai adorée. Sur hashtag si j'étais pirate, j'irais jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud, mais j'irais plus au pôle Emploi. Voilà. Je trouve ça très, très drôle. donc, vous pouvez vous amuser à regarder si vous avez 10 minutes à perdre cet après-midi, tout ce qui a
après
été...
Après Frédéric Lopez, hein, pas
voilà,
pendant. Hein.
Après Frédéric Lopez.
Ou juste entre la fin de notre émission voilà. Et Frédéric Lopez.
Ou entre ces deux émissions pendant la pub.
C'est un hashtag qui a été lancé par le journal du Geek, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit magazine du coup qui parle de sujets numériques et ils sont très présents sur Twitter, donc ils ont lancé ce petit hashtag et du coup ça a beaucoup tourné, donc je ne sais pas si vous étiez pirate, si tu étais pirate, Guillaume, tu ferais quoi ?
Je sais pas.
Tu sais pas
voilà. De la radio pirate peut-être.
Ben voilà.
Ah, William ?
Si j'étais pirate, je sais pas tellement. Moi, je me ferais un bateau déjà.
Ouais, bah, pour commencer, c'est un bon point de départ.
C'est pas mal.
Moi, si j'étais pirate, oui, non, je ferais le tour du monde.
Ouais. Je pense aussi, ouais.
Moi, j'en reste sans voix.
Moi, si j'étais pirate, je crois que j'aimerais rencontrer notre ami Johnny Depp. Il est quand même un des plus beaux pirates du monde du cinéma. Voilà pour les deux hashtags sur cette semaine. Après, sur un zoom lozérien, On a encore un hashtag très lié à la météo. La dernière fois, je vous disais, on parlait déjà d'orage sur Twitter il y a 15 jours. Bah, là, on est sur du hashtag CEP, par exemple. Donc, voilà, guettez la sortie des CEP. Apparemment, ça va arriver.
Ça devrait venir, par exemple.
C'est arrivé.
C'est ça. C'est arrivé. Voilà. Donc, les tweetos avaient raison sur leurs prédictions. Et puis, hashtag patrimoine aussi, où on a eu pas mal de sujets autour des journées du patrimoine en Lozère, avec des hashtags histoire, des hashtags voilà, liés à toutes les animations qu'il y a eu ce week-end avec les journées du patrimoine.
Je suis tombé sur une super animation, sans faire exprès, du piano qui déambulait, en visite guidée de Mende, c'était juste super. Ouais.
C'était samedi pour les courageux samedi, qui ont affronté le vent et le froid. Donc voilà pour le petit tour d'horizon sur les réseaux sociaux cette semaine.
Et en parlant réseaux sociaux, est-ce que la Lanterne a sa page Facebook et son compte Twitter ?
Non, on a une page Facebook et bon, non, on n'a pas de compte Twitter. Je ne sais pas comment ça marche.
Fallait écouter notre premier magazine. Il y a un petit cours sur Twitter.
Vous l'utilisez beaucoup, la page Facebook ?
On l'utilise, oui, pour diffuser les informations. Après, pas plus que ça.
Bien, mais on va vous proposer une deuxième.
N'hésitez pas à tweeter
et envoyer vos réactions. Hashtag LoseActuali, et vous pouvez nous interpeller directement, comme nous l'a expliqué la semaine, il y a 15 jours Adeline, en faisant @48FMMende. Voilà, tout attaché, ça permet d'avoir la petite alerte qui s'affiche sur nos terminaux ici et de pouvoir réagir pendant l'émission, tout au long de l'émission. Et donc pour la pause musicale, c'est Yael Naïm Toxique.
Baby, can't you see I'm calling a guy like you? Should wear a warning, it's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. You're toxic.
Et voilà, dernière séquence de cette émission qui se prépare avec une revue de presse.
Et ta revue de presse qu'on attend depuis quelques jours déjà.
Impatiemment.
Et oui, ça fait quelques jours que cet article est sorti, un article de Théophile Pedrola sur Néon, qui évoque, enfin voilà, le titre de l'article est très clair, quelle région aime le plus le sexe ? Voilà.
Région de France ?
Et oui, quelle région de France, oui, oui. Et donc, ça commence, c'est très drôle, j'aime beaucoup le « Nos régions ont du talent hein, », c'est la phrase d'accroche de l'article.
C'est bien connu.
Et donc, c'est Oui Romantique qui publie donc une grande enquête sur les Français et le sexe. Voilà, où est le plus haut alors, où a-t-on le plus de partenaires, à votre avis?
En région parisienne, je dirais.
Alors, c'est le cas, effectivement, puisque... Mais c'est pas les premiers. Les premiers, le nombre de partenaires au cours d'une vie varie beaucoup selon la région. Si les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus chauds, avec près de 13,5 partenaires dans leur vie, les habitants de Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont à la traîne avec 6,75 en moyenne. Les Bretons sont à 10,7, comme tous les Franciliens à 11,7. Et le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est aussi plutôt dans la tranche haute. Alors après, nous avons les champions du Viagra.
Oula.
Est-ce que vous avez une idée ? Bah, c'est les mêmes. Hein,
bah, voilà, j'allais dire en fait, parce que tous les vieux, ils descendent.
Voilà, donc ne cherchez pas. Alors c'est même, je crois, le record par département. Là, c'est que par l'échelle des régions, mais je crois qu'à l'échelle des départements, c'est la Corse du Sud, je crois, qui explose tout. Voilà, donc quand même, donc la région PACA arrive en tête avec 36,5 boîtes vendues par an pour 1000 habitants. Ce qui fait quand même, un peu de quantité. Hein. Bon, et c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui arrive après avec 30,3 boîtes pour 1000 habitants. Et les plus sages, les Bretons, les Nordistes.
Comment on ne sait pas, c'est peut-être le même qui prend les 30,3 boîtes.
C'est possible.
C'est...
Oui, c'est sûr que...
C'est possible.
Il fait exploser les statistiques.
Alors, qui met le plus de porno, hein, question sur Google. C'est essentiellement l'Île-de-France qui bat tous les records avec plus de deux fois par mois par habitant. Voilà. Et ensuite, c'est globalement tout le sud de la France et l'Alsace. Et les plus sages, bah, finalement, c'est l'ouest et le nord. Et puis alors pour finir, hein, cet article qui, bon, voilà, avec, en fait, il y a plein de petites
subtilités,
de petites infographies hein, sur cet article que vous pouvez retrouver sur le site de Néon. Mais c'est le dernier, ce sont les libertins et les clubs échangistes. Alors où trouvez-vous le plus de clubs échangistes en France ?
Au Cap d'Agde.
Et oui, non mais là c'est bien effectivement Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées qui est en tête avec 67, hein, il fallait bien quand même que nous arrivions premier dans ce classement sur une des catégories, voilà, donc voilà, vous voyez, il y a des infos très très légères, on va le dire, dans la presse, et dans cet excellent magazine Néon qu'on peut retrouver tous les mois. Là. Dans les bons kiosques à journaux.
Et que tu affectionnes, Guillaume.
Que j'affectionne, je l'avoue tout à fait. Maintenant, c'est à toi, Caroline. Tu vas nous parler, après le sexe, on va parler de mariage.
De mariage. De mariage. De mariage, pas vraiment d'amour, plutôt d'intérêt, on va dire. Je n'ai pas choisi un article en particulier parce que ça... Le jour de ce mariage, il y a eu, ça a un peu fait le buzz et dans la presse, et dans tous les médias, y compris sur les réseaux sociaux. C'était pas une annonce, hein, c'était préparé de longue date. C'est le mariage du groupe des deux multinationales Monsanto et Bayer, le rachat de l'américain par l'allemand. Et bien évidemment, la naissance, quand je disais tout à l'heure que ce n'était pas un mariage heureux, parce que c'est la naissance quand même d'un monstre de l'industrie chimique et de tout ce qu'on peut faire de plus terrible pour notre planète, avec une grosse inquiétude du monde agricole face à ce géant qui vient de naître. Donc voilà, c'était pour une espèce de petite alerte. quand ça va être encore plus compliqué face à ce gros monstre de lutter que face à deux qui se faisaient un peu de concurrence, ça les occupait un peu à se faire de la concurrence.
Donc là, il prend créer le poison et l'antidote.
Voilà, c'est ça. Là, il y a toute une série de dessins qui a circulé sur les réseaux sociaux parce que là, pour le coup, il boucle la boucle et je pense qu'on a quand même intérêt à être très vigilant. Quoi.
Mais est-ce que l'autorité de la concurrence européenne va accepter cette fusion ?
Alors on attend sa réponse et c'est vrai que ça serait bien que ce soit non.
Parce que ça fait quand même une...
Ah bah c'est un monopole terrible quoi.
Voilà, ça fait quand même une énorme...
Un monstre.
Mais voilà. Donc oui, effectivement, beaucoup d'articles dans la presse, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.
Et énormément d'argent à la clé, hein, bien évidemment, des enjeux économiques énormes.
Très bien, merci Caroline de cet éclairage sur l'actualité au travers de cette actu. Adeline ? Non, c'est d'abord Eric. C'est
ça, oui, parce que ça poursuivait sur cet environnement en péril. Oui. Voilà.
Et c'est donc un article de Libération.
Oui, après, c'est pareil, j'ai choisi un article, mais c'est plus sur la sortie...
Oui, tu vois, moi, j'ai pas osé.
C'est plus sur la sortie médiatique de M. Nicolas Sarkozy. Qui a osé dire...
Donc, une des sorties, parce que depuis, oui, c'est renouvelé.
C'est ça. Donc, qui nous a sorti, donc, je cite, « Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. » Donc, fin de citation. Donc, c'est vrai que tout ça, alors que le réchauffement climatique, tout le monde commence à en parler, tout le monde est d'accord dessus, les politiques, les scientifiques surtout, toutes les organisations mondiales démontrent tout ça et que l'origine du réchauffement climatique est d'origine anthropique. Donc, qu'il ose faire une sortie comme ça, moi, je pense que, voilà, il a une nouvelle fois voulu faire du buzz avec toutes les affaires qui lui retombaient dessus. Après, c'est juste de l'incompétence. C'est virer climato-sceptique comme ça, comme peut le faire M. Donald Trump aux États-Unis. C'est de l'inconsidération. Après, ça pouvait lui servir d'argumentaire derrière, donc, puisque, a priori, pour lui, c'est... Ce qui va développer tout ça, c'est plus le développement démographique, la croissance démographique en Asie et en Afrique. Donc c'est surtout après qu'il ne faudra pas faire attention aux migrations venues d'Afrique. Donc contrairement à ce qu'il peut dire, le plus sûr moyen d'arriver à baisser le réchauffement climatique, ce n'est pas forcément de stériliser les pauvres du Sud. C'est peut-être par contre d'empêcher que le mode de vie occidental actuel ne puisse se répandre aux quatre coins du globe, parce que la façon dont on vit maintenant, mais ce sera certainement pas possible demain. Donc voilà, c'est de commencer plus par ça, et pas forcément d'apporter des solutions dans tout ce qui est urbanisme, environnement, agriculture, et pas de continuer à soutenir les industriels, comme on vient de voir juste avant, entre Monsanto et Bayer, déjà, qui font tant de choses comme ça. Donc après, voilà, il nous montre au lendemain de la COP21 qu'en fait, lui, la seule façon qu'il a de se distinguer, c'est de faire de la com et pas de proposer des solutions. Voilà.
Bah c'est vrai que dans une période de pré-campagne, c'est aussi une façon d'attaquer le bilan, finalement, sur un des points qui peut être acté comme positif pour le bilan de François Hollande sur la COP21, justement.
Oui, certainement. Voilà. Après, déjà, il a les primaires à passer. Il n'est pas forcément très bien dans les primaires non plus. Donc, je ne sais pas. Voilà. Il a fait le buzz.
Et malgré ce succès de la COP21, on sent bien que l'environnement n'est pas la priorité quand même de cette campagne qui s'annonce. Enfin, risque de ne pas être la priorité,
oui, parce
malgré les enjeux. Quoi.
Nicolas Sarkozy, il a quand même fait le Grenelle de l'environnement. Ouais.
Et deux.
Il avait signé la charte de Nicolas Hulot. Donc voilà, ça demande que voilà, là-dessus, oui, ils en parlent un tout petit peu. Et le peu qu'ils disent, ils ne le font pas.
Voilà, c'était le billet édito. Il y en aura dans cette émission, vous ne vous inquiétez pas. et donc, Adeline.
Alors, l'article.
On va changer de clavier.
Voilà, peut-être. Peut-être.
On s'était habitué quand même, hein, maintenant.
Oui,
alors c'est pas encore fait. Mais l'article dont je voulais vous parler aujourd'hui, je suis tombée dessus ce week-end. J'ai essayé de chercher une excuse valable à une énorme faute d'orthographe que j'ai fait moi-même, du coup, pour tout vous dire, dans une vidéo de mariage ce week-end. Et donc, il me fallait absolument trouver une excuse au fait que je ne maîtrisais pas complètement notre orthographe. Et en fait, j'ai trouvé en partie cette excuse grâce à un article du Monde qui me donne enfin un peu, en tout cas en partie, raison. Alors, le point de départ de l'article, c'est une déclaration sur le site du ministère de la Culture il y a quelques mois, qui déclarait qu'il était presque impossible d'écrire en français correctement avec un clavier commercialisé en France. Donc la délégation générale à la langue française et aux langues de France a déclaré que les claviers AZERTY, donc AZERTY pour les 6 premières lettres de nos claviers d'ordinateur, ne sont pas adaptés au français. Et pourtant, tout le monde les utilise. Donc l'Association française de normalisation, l'AFNOR, s'est penchée sur le problème et est en train de proposera prochainement de nouvelles solutions pour remplacer nos claviers. Donc apparemment, ce qui se passe, c'est que du coup, avec l'utilisation de ces claviers-là qui ont été conçus à partir de la langue anglaise, il est très difficile du coup de prendre en compte toutes les subtilités de notre langue française. Alors par exemple, c'est très compliqué si on doit écrire un E dans l'eau, par exemple, donc pour écrire le mot cœur, ou une cédille en majuscule. C'est possible, mais
la cédille en majuscule, c'est dur.
Voilà, il y a plein de petites subtilités. Il faut faire un clic droit pour une correction d'orthographe. Enfin bref. Donc en tout cas, c'est pas du tout simple. Et selon l'article toujours, les claviers AZERTY que l'on a en France gomment les spécificités des langues régionales et européennes. Et par exemple, en français, on ne peut pas écrire de noms allemands ou espagnols, alors que les claviers allemands, eux, peuvent écrire des noms de famille en français. Par exemple, je pense à toutes les subtilités aussi de la tilde en espagnol. C'est plein de choses qui sont un peu compliquées avec nos claviers. Donc, quelles sont les propositions de cet article pour remplacer notre fameux clavier AZERTY ? Alors, les noms sont tout aussi exotiques. Hein. Alors, moi, j'ai complètement découvert, par exemple, qu'on allait bientôt parler de clavier Beppo ou Colmax. Donc apparemment, il y a déjà une communauté de passionnés qui milite depuis des années en faveur d'une disposition de clavier différente pour taper plus aisément les caractères en français et aussi pour minimiser les mouvements de la main en répartissant les touches, du coup, différemment à l'aide d'un algorithme qui utilise des statistiques lexicales, donc en fonction des lettres qu'on tape le plus souvent. Apparemment, il y avait déjà un chercheur américain qui s'appelle August Dvorak, qui avait déjà travaillé sur cette question-là dans les années 30 et qui est complètement tombé dans l'oubli. Et il avait pour lui déjà proposé donc le Beppo, le clavier Beppo pour la langue française et un clavier qui s'appelle Dvorak pour la langue anglaise. Il existe aussi d'autres types de claviers plus spécifiques à des professions, notamment pour les développeurs web, par exemple, qui ont des claviers alternatifs s'ils le souhaitent. Et puis, il y a des entreprises comme Kinesis ou Maltron qui vendent aujourd'hui des claviers alternatifs à des communautés d'internautes et qui, du coup, développent de plus en plus leur offre. Et le marché est en train de s'étendre, en tout cas, pour progressivement remplacer nos claviers AZERTY. Donc, vous l'aurez compris... Une fois qu'on utilisera, tant qu'on utilisera encore nos claviers AZERTY, j'aurai toujours une bonne excuse en famille pour justifier mes fautes d'orthographe. Voilà pour cet article. Un article du Monde, donc, que vous pourrez retrouver en ligne.
Dans la revue Pixel, vous retrouvez, enfin, dans la chronique Pixel.
La rubrique Pixel du Monde, oui.
Et vous retrouverez évidemment, comme pour la première fois, tous les articles que nous avons cités dans les commentaires du lien de notre émission, du podcast. De cette émission.
Oh, qu'est-ce que c'est bien fait.
C'est magistral. Bon, on vous souhaite en tous les cas une très bonne quinzaine. Merci William Fage d'avoir passé cette émission avec nous. Donc on le rappelle, une expo à la fois à la Maison Consulaire et à la Lanterne pendant encore presque un mois. Hein,
ouais, c'est ça.
Voilà. Il faut en profiter et on vous souhaite à tous une très bonne quinzaine. Hein, voilà, et vous pouvez nous réécouter 48fm.org, les rediffs le mardi à midi et demi, le jeudi à 19h.
Voilà. Et tout de suite l'agenda culturel du coup.
Et oui, tout de suite l'agenda culturel. Et on fait un petit coucou à Marie qui a repris du service.
L'Ose Actuali. Votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Ose Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Ose Actuali, le nouveau magazine de 48FM.